France Musique.
Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de France Musique. Ah, on aime les sopranos, on aime les ténors, à l'opéra, ben oui, ils montent très haut, ils nous épatent, ils font des stars, mais quand vous êtes basse, alors là c'est une autre histoire. Vous êtes nécessaire, parce qu'il en faut bien des méchants à l'opéra, mais on vous médiatise pas, mon Dieu, mais quelle tragédie! Aujourd'hui un répare, un gros dommage avec mon invité, Nicolas Courjal.
Thank you.
L'ouverture du concerto de Jean Sibelius, c'était David Oistra qu'on entendait ici avec l'orchestre du Festival de Stockholm, dirigé par Sixten Ehrling en 1954. Bonjour Nicolas Courjal.
Bonjour.
Un choix qui est le vôtre, celui de David Oistra en ouverture, pour nous rappeler votre carrière de... Enfin carrière, je sais même pas quoi.
Mon enfance de violoniste,
ça, plutôt.
On va dire.
Vous commencez par le violon, donc.
Oui, à l'âge de 7 ans,
Ah ouais,
à Rennes, au conservatoire.
Vous êtes allé loin ?
Bah, je suis allé, j'ai terminé en fosse d'orchestre, un peu, comme ça, par-ci, par-là, à l'Opéra de Rennes. Et c'est comme ça que j'ai découvert, d'ailleurs, ce qui se passait en haut,
de l'autre côté,
sur la scène. Et c'est comme ça, petit à petit, j'étais intéressé par, que ça m'a amené à avoir envie de tester la voix.
Ah, c'est ça. Vous auriez pu choisir quand même bien d'autres choses que David Oistrakh. Pourquoi ce concerto et lui ?
D'abord, ce concerto, parce que c'est un de mes préférés. Très dur à jouer. Mais très lyrique, très voilà quoi, c'est une musique qui me touche beaucoup. Et David Oistrakh, parce que je trouve que c'est vraiment un des violonistes peut-être les qui chante le plus avec son violon. Je trouve qu'il y a vraiment en tout cas maintenant en tant que chanteur, je à chaque fois que je l'écoute jouer, je le sens chanter quoi.
Ouais.
Mais même jeune, j'adorais en fait.
Et c'est certainement l'un des concertos celui de Sibelius qui chante le plus aussi, ce qui veut dire
c'est
que
voilà, donc en fait tout ça fait que c'est un de mes préférés.
Quand vous pensiez violon, vous pensiez déjà voix en fait d'une certaine
sans
manière.
Sans m'en rendre compte.
Vous voyez
c'est vrai.
Ouais. Et donc c'est en allant à l'opéra depuis la fosse que vous êtes rendu compte qu'on pouvait chanter sur scène. C'est
voilà, ça une retransmission des Corrigis d'Orange d'ailleurs. Je crois que c'était un Wagner, la Valkyrie, je crois. Mais alors, j'y connaissais rien du tout. J'étais vraiment, j'écoutais de la musique symphonique, la musique de chambre, et je jouais mes études et mes concertos et stop. Et donc, de temps en temps, on voyait les chanteurs à venir au conservatoire avec leurs grandes écharpes et tout. C'était un monde différent. Puis ils étaient beaucoup plus âgés que nous, parce que nous, on était jeunes,
oui,
on était adolescents.
Oui.
Donc, c'était un monde qui était très éloigné de moi et que j'ai appris à connaître après, en grandissant.
Donc, un chanteur, c'est quelqu'un qui a une écharpe.
C'est ce que je pensais à l'époque. Aujourd'hui, non, pas par cette
heure-là. En tout cas, pas en temps de canicule.
Non.
Nicolas Courjal, il faut que je vous remercie d'être là ce matin parce que vous étiez en première hier soir à Londres. C'était
à Londres.
Pour Guillaume Tell,
De
Rossini, une toute nouvelle production. C'est passé comment ?
Ça s'est très bien passé. C'était un très beau moment.
Vous faites quel rôle ?
Je fais le rôle du méchant.
Ah, bah évidemment, vous êtes basse, donc notamment.
Et avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Et voilà, qui s'appelle Gessler. Donc c'est celui qui a l'idée de mettre la pomme sur la tête du fils de Guillaume.
Ça, c'est pas bien ça.
Formidable.
Il faut être vraiment Vicelard, quoi. Hein.
Faut être un peu Vicelard.
C'est que des rôles de Vicelard que vous faites, ou de méchant, ou de saletier.
Ou d'hommes très âgés comme Arkel. Il n'y a pas que des méchants.
C'est ça.
Il y a des tourmentés aussi. Philippe II, tout ça, sont pas forcément que des méchants. Puis il y a des vrais méchants comme Gessler, comme tous les diables, qui sont quand même.
On est toujours prisonnier. On est prisonnier de tout à l'opéra. On est prisonnier de sa voix et puis on est prisonnier des rôles qu'évidemment la voix vous impose
aussi.
Bien
sûr. Oui. On peut pas aller contre sa voix. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut. Mais moi, j'ai la chance d'adorer le répertoire qui va avec ma voix.
D'accord.
Donc, j'ai pas de problème
pas
avec
diatus.
Ça. Quoi. Ah oui, vraiment, ouais.
C'est Antonio Pappano qui dirige cette production de Guillaume Tell à Londres, jusqu'au 17 juillet, si on a envie d'aller vous voir. C'est à
2h20
d'Eurostar. Il y en a encore 6. Tous les chanteurs me disent toujours que c'est un chef absolument formidable et qu'ils adorent. C'est vrai, pour quelle raison ?
D'abord, parce qu'il est vraiment passionné par l'opéra. Ce que sont pas toujours les... Il y a des chefs d'orchestre qui sont passionnés par l'opéra, puis il y en a d'autres qui le sont peut-être un peu moins, mais qui font quand même de l'opéra. Lui, il est passionné par l'opéra, c'est un énorme travailleur, il adore les voix, il adore les chanteurs, il fait tout pour nous mettre en confiance et au mieux de nous-mêmes. Et puis après, quand il est au pupitre, les jours de spectacle, il est complètement en osmose avec nous, quoi. C'est vraiment quelque chose de... Et il sort des sonorités de cet orchestre, qui est très bon d'ailleurs, l'orchestre du Royal Opéra. Mais formidable. Hier, les pages d'orchestre étaient vraiment à tomber.
On va vous entendre ici, dans ce qui suit, Nicolas Courjal, dans l'un des très rares enregistrements que vous avez donné. Vous me racontiez juste à l'instant qu'il y en a quelques-uns à venir, qu'on ne va pas déflorer, on en reparlera peut-être au moment où ils arriveront. Mais voici par exemple un des rares disques qu'on a de vous, c'est pour une Sémiramis. Et je bénis votre colonne, et je
Il crime que votre puissance a dédaigné de prévenir, a dédaigné de prévenir. On est mon fond de la couronne, tout il soigne que vous pouvez. Grand Dieu, frappez-moi sur le trône.
Courjal chantait un extrait, comme je le disais tout à l'heure, d'une Sémiramis, pas la Sémiramis de Rossini, une autre, hein, signée Cattel, Charles Simon Cattel. C'était une découverte du Palazzetto Bruzane et d'Hervé Niquet, de son concert spirituel, et dont vous qui étiez là-dedans, oui. Nicolas Courjal, toujours marrant d'aller découvrir des trucs comme ça, enfin, carrément recréés même.
Oui, hein. Ce sont des recréations, quoi, donc des créations, et c'est toujours assez passionnant. Ouais. J'en ai fait quelques-unes avec le Palazzetto, j'ai fait Dimitri Joncière qui est en disque aussi maintenant. Bientôt un disque qui sort dans quelques mois,
qui sera
deux, trois mois, qui est Herculanum de Félicien David, qu'on avait fait en concert l'année dernière au château de Versailles, qui est une formidable.
Ah ouais.
Enfin, est formidable, parce que le rôle de basse est formidable.
Tout simplement.
Non, mais c'est une très très belle œuvre. Et à chaque fois, ce sont des recréations, à chaque fois, ce sont des œuvres qui ont quand même marqué leur temps, même si elles ont disparu après, on ne sait trop pourquoi, mais qui ont marqué leur temps. Donc on retrouve des sonorités d'autres compositeurs, et c'est... Donc, voilà, c'est intéressant au niveau musicologique, mais c'est intéressant aussi tout simplement de les recréer, et de les défendre. Quoi.
Et puis souvent même au niveau musical aussi, c'est quelque chose d'important après
ouais.
tout. Hein.
Ouais.
Je suis un petit peu déçu, je dois dire, Nicolas Courjal, on avait prévu de vous faire entendre une voix qui était celle de votre professeur, Jeanne Verbier, puis on a eu un problème d'informatique, en général ça marche très bien, et là tout d'un coup ça marchait plus. Jeanne Verbier qu'on a rencontrée il y a deux mois à Toulouse, qui est une femme absolument formidable, grande chanteuse aussi, et qui a été votre professeur principal seul, comment?
Ça a été, oui, moi je considère que c'était ma professeure qui vraiment m'a appris à chanter le répertoire d'opéra sur une scène. Avant, j'avais des professeurs, j'étais jeune, de toute façon j'avais entre 17 et 20 ans, 21 ans, je chantais comme ça, j'avais beaucoup de plaisir, mais réellement je ne savais pas chanter. Voilà. Et quand je l'ai rencontré, en fait je suis rentré au CNSM, j'ai été pris au concours du CNSM.
95 c'était ?
95, voilà. Et j'ai été pris dans sa classe, mais je ne la connaissais pas. J'avais mis deux noms au hasard, parce qu'on doit mettre deux noms en fait de professeur.
D'accord. Et au pif.
Tous les élèves connaissent, ont déjà pris des cours, plus ou moins. Moi, je connaissais personne, je venais de ma petite province. Et j'ai mis deux noms vraiment au pif, ouais.
D'accord. Et donc, c'était lesquels les deux noms?
Donc, c'était Gottlieb, je crois.
Ouais.
Et puis, Jeanne Verbier en deuxième
D'accord.
choix. Et parce que je trouvais que ça sonnait bien, parce que je connaissais pas les chanteurs, je connaissais personne, c'est bon. Et du coup, voilà. Et ça a été vraiment une rencontre, énorme. Si je suis là aujourd'hui, si je chante aujourd'hui à Londres, ça c'est vraiment grâce à elle, quoi. Elle m'a appris à chanter, elle m'a appris à ce qu'était le métier, la pression psychologique, la difficulté du métier. Elle m'a appris aussi parce que je revenais, quelquefois j'étais en troupe à l'Opéra Comique, et je revenais quelquefois à la voir, parce que on me demandait de jouer sur scène et je savais pas trop comment me débrouiller. J'avais 23 ans, hein, donc c'était vraiment le tout début. Et elle me donnait des conseils et tout. C'est, voilà, c'est des souvenirs. Mais elle est extrêmement importante pour moi.
C'est une personnalité vraiment formidable, qui a vu beaucoup de choses, qui a rencontré beaucoup de monde. Quand elle vous parle de Scholti, de Carrière, enfin bon, c'était comme des choses simplement. Que, voilà.
Tout à fait. Ça fait et à la fois, elle est restée très simple avec tout ça.
Ouais.
Elle en parle. Et c'est passionnant, parce que du coup, pour nous, ce sont des témoignages qui sont vraiment très forts. Mais à la fois, voilà, elle, ce qui compte, c'est de continuer à aider les jeunes chanteurs à continuer. Je la vois toujours, je l'appelle, quand j'ai fait le Roi Marc au mois de mars, c'était mon premier Wagner. Elle était là, elle est venue 3 fois m'écouter de Toulouse et tout. C'est vraiment, voilà, c'est une personne formidable. Et puis c'est plus qu'une professeure pour moi maintenant, bien sûr.
Et puis c'est quelqu'un qui dit ce qu'il a envie de dire.
Ah, mais c'est ça qui est formidable. Toujours, c'est que vous êtes sûr que quand elle vient vous écouter, elle vous dira.
Voilà. Ah oui. D'accord. Il t'est arrivé qu'elle soit dure comme ça, ça allait pas pour telle ou telle raison.
Oui, mais pour moi c'est jamais dur, c'est juste. D'accord. Donc après voilà, c'est ce qu'on demande aussi à un professeur ou à un coach, c'est d'être juste, c'est pas de pas d'enrober les choses ou pas de. Le métier est dur, hein. Donc ça nous apprend ça.
On va l'entendre, Jeanne Berbier, c'est dans un extrait de Offenbach. Un extrait d'Orphée aux Enfers de Jacques Offenbach, Jeanne Berbier, dans cette ère de Cupidon, version Michel Plasson. On la reconnaît tout de suite, il n'y a pas de doute, c'était bien elle.
Pas de doute, c'est bien elle.
France Musique.
Nicolas Courjal, à midi 19, le questionnaire de Proust auquel vous avez répondu. Votre principal défaut, vous me dites, le manque de confiance en soi.
Oui.
Ce qui pour un chanteur est rare quand même. Enfin,
je veux dire. Pour... Oh, je pense pas.
Ah bon?
Oui, si.
Je rencontre quelques-uns, surtout les ténors. Je voudrais pas vous dire, mais enfin bon, en général.
Je suis basse.
C'est
un défaut. Et puis c'est aussi de douter dans le métier, de toujours douter, de toujours retravailler, de toujours réfléchir, de jamais se sentir arrivé. C'est utile. Après, le manque de confiance en soi, c'est quand c'est un peu trop. Et c'est vrai que j'ai mis du temps à... Maintenant, ça va un peu mieux. Je me soigne, mais j'ai mis du temps à vraiment... Ça vient peut-être aussi du fait que la voix de basse met beaucoup de temps à s'accomplir,
à se construire.
Et que du coup, c'est vrai que moi, je travaille depuis l'âge... J'ai 23 ans, donc ça va être presque 20 ans maintenant. Et donc, j'ai vraiment appris sur le tas, sur les scènes, sur les... Et c'est vrai que, oui, c'est... Un défaut que j'aurais.
D'accord. Et pour régler ce défaut, c'est quoi? Vous me dites, je travaille, vous foutez des
baffes? Je travaille.
J'accepte
le fait de ne pas être parfait, déjà. Et puis de venir sur scène et d'essayer de donner le maximum de moi. Mais ça se fait petit à petit. Puis l'assurance aussi petit à petit, avec l'expérience.
Avec le temps aussi. Ce que vous voudriez être, tiens, écrivain.
Ah, j'aurais beaucoup aimé.
Ouais. Ah oui? Vous écrivez d'ailleurs ou...
Oui, mais je ne suis pas écrivain, quoi.
D'accord.
Mais oui, j'écris de temps en temps, mais c'est voilà. Et moi, quand j'étais jeune, j'avais mon grand rêve, c'était d'avoir une machine à écrire, quoi.
Ouais. Vous saviez pas ce que vous vouliez écrire dessus, mais
non,
mais
ah, oui. Non, puis
j'ai connu ça aussi.
Ouais, voilà, tout ce côté autour de l'écrivain. Mais oui, j'adorerais pouvoir écrire des histoires, écrire des nouvelles, des romans.
Vous avez de l'imagination d'ailleurs pour faire ça?
L'imagination, oui. Après, ouais. C'est tout le reste qui me manque, quoi.
Mais plutôt roman, pas journal intime ou.
Ça peut être n'importe quoi. J'adore la poésie, toutes les formes d'écriture, on va dire, quoi.
Voilà. Mais est-ce que vous êtes lecteur d'ailleurs, parce que vous n'avez pas choisi d'écrivain préféré?
Oui, je suis lecteur.
Ah oui, ça vous mange.
D'accord. Ouais, beaucoup. Donc du coup, c'est un métier qui nous donne le temps de lire, hein. Les voyages en train, les voyages en avion, tout ça. Voilà.
Votre héros dans la vie réelle, les petits héros du quotidien, les héros anonymes.
Voilà, ouais. Ouais. Nos voisins qui nous aident, les gens qui sont plus les anonymes que les. Après, les grands héros sont formidables aussi, mais. Mais voilà.
Votre ville préférée, ça tombe bien, vous en venez.
Ouais. Ah, c'est une ville, la première fois que je suis allé à Londres, j'avais 16 ans, c'était mon premier voyage un peu extra continent. Et j'ai adoré tout de suite, quoi. Et après, quand je suis retourné pour travailler, c'était un rêve pour moi d'y retourner, d'y travailler encore plus. Ça, c'était, voilà. Et pareil, j'ai eu le même sentiment dès que j'ai mis les pieds à Saint-Pancras, sortir de la gare. C'est une ville où vraiment je me sens très très bien. C'est pas une ville parfaite, hein, mais c'est une ville où moi je me. Voilà.
C'est l'énergie de la ville qui vous va.
L'énergie de la ville est formidable. Ouais. Ouais. Et là, le monde culturel qu'il y a là, tout autour, les théâtres, les concerts, ça, c'est quand même. C'est
ce qu'il faut. Ouais. Comment vous aimeriez mourir, Nicolas Courjal?
Ah, je sais plus ce que je vous ai mis.
Sereinement avec de la musique.
Bah oui.
Et entouré de mes proches.
Ouais. C'est une belle façon, non?
Ah, ça peut être une belle façon.
Voilà. Comme ça, sans souffrir, en partant tranquillement.
Sereinement, si on peut.
Voilà,
votre
si on
choix
peut.
Musical du jour, sinon, c'est un choix CD qui sera jazz, que vous aimez beaucoup, ça, le jazz.
J'adore,
je crois,
le jazz.
Hein.
J'adore le jazz. J'adore le jazz, mais j'adore le jazz vocal. Ouais.
Vous en faites d'ailleurs vous-même un peu?
Non, j'adorerais, mais je
trouve autre chose. Hein. Ouais.
J'étais tellement formé dans un carcan classique, violon, oreille, exactitude. Respect de la partition, que voilà. Aujourd'hui, dans les conservatoires, il y a des classes de jazz, il y a des classes d'impro et tout. À mon époque, il n'y en avait pas. Donc, quand on rentrait au conservatoire, on rentrait et j'étais très content. Hein. J'adorais la musique classique. Mais c'est vrai qu'après, adolescent, j'ai découvert le jazz et ça a toujours été. Oui, j'aurais bien aimé. On peut pas tout faire dans la vie, quoi.
Ah bah non. En revanche, on peut aller au concert et découvrir un jour Lincoln, par exemple.
Mon premier concert de jazz.
Ouais. Et alors, grande émotion.
Ah oui, super, formidable.
C'était à Rennes.
C'était au TNB et je me suis pris une place et sans connaître la dame d'ailleurs,
hein,
mais qui est une des dernières grandes dames du jazz qui est décédée il y a pas longtemps, qui est décédée il y a deux ans, je crois, quelque chose comme ça. Et qui vient, qui était un peu plus jeune, mais qui vient de toutes ces grandes dames, Sarah Vaughan, Fitzgerald et tout. Donc c'est une héritière un peu, voilà. Et qui était encore pas dans la médiatisation de jazz comme on peut maintenant, voilà, qui est bien, hein, qui me pose pas de problème, mais qui était vraiment une vraie chanteuse de jazz, de club, de. Voilà, quoi.
Ouais, pas de grande salle de concert.
Voilà.
Soar like an eagle,
walk like a lion, although it won't be, I know. But I can swim the ocean, and it's deep and wide. And in the house above me,
c'est Abbé Lincoln qu'on entendait là, extrait de son album Turtle's Dream, un rêve de tortue. C'était aussi le titre de ce qu'on vient d'entendre là. C'est toujours bizarre les titres en jazz. Hein.
Oui.
On se demande
oui,
si c'est... Faut en tirer des conclusions hâtives. Pas des conclusions pétards, c'est ce qu'il était en train de me dire. D'accord. Nicolas Courjal, qu'est-ce que je voulais vous demander? Des histoires de troupe, tiens, oui, c'est vrai. Vous avez fait de la troupe.
Vous êtes
un chanteur qui est à l'Opéra Comique et puis en Allemagne aussi.
J'ai fait
aussi,
deux ans de troupe à l'Opéra Comique, c'était mes débuts, mais vraiment mes débuts, grâce à Pierre Médecin à l'époque, qui était directeur et qui avait créé une troupe, le JTLF, les Jeunes Têtes Lyriques de France, et qui m'a donné la chance de rentrer dans cette troupe inexpérimentée, mais qui m'a fait confiance. Donc ça, c'était mes deux premières années. Et après, à la suite, je suis parti à Wiesbaden, en fait, et faire 2 ans de troupe là-bas, troupe à l'allemande. Voilà.
Pourquoi vous auriez 10 ans troupe à l'allemande?
Parce que vraiment, avec 90 spectacles en 9 mois,
des
productions qui s'enchaînent, un spectacle différent chaque soir, enchaîner Carmen un soir, Tosca le lendemain, Don Giovanni le surlendemain, enfin voilà, à l'allemande dans l'organisation. Mais formidable, quoi. Enfin, pour apprendre le métier.
T'as vraiment pas de rigolade.
Là où je fais peut-être, 20 spectacles en tout, je veux dire 20 soirs. 20-25 en France, c'est vrai qu'un chanteur en troupe en Allemagne en fait 90. Quoi.
Et oui.
Donc la somme d'expérience est...
Alors ce qu'il faut dire comme sur la voix de basse, c'est que les rôles souvent sont relativement petits, parce qu'il y a très peu
d'opéra. Voilà. Les ténors et les sopranes ne font pas 90 spectacles dans l'année en troupe. Mais moi, je
parce qu'en une soirée, ils chantent une heure et demie, alors
moi j'avais un contrat, ce qu'on appelle débutant, un finger for track, et donc je faisais tous les second rôles. Donc c'est vrai que j'étais dans tous les opéras, ce qui me permettait d'avoir un éventail de découvertes très intéressantes.
Je reviens à cette idée, Nicolas Courjal, de faire très peu de temps à l'intérieur d'une seule représentation, c'est-à-dire chanter 10 minutes, juste une prestation, et puis un an. C'est à la fois compliqué en termes d'investissement, ça doit poser des questions aussi, parce qu'on est obligé d'être là les 4 heures du spectacle.
Ouais, c'est compliqué en termes de pour créer un personnage. Alors ça dépend, il y a des petits rôles, par exemple Gessler dans Guillaume Tell, il n'y a aucun problème, ça dure 20 minutes, sur les 4h30 c'est rien, mais le personnage est fort, il y a vraiment de quoi créer quelque chose. Il y a d'autres petits rôles où c'est très compliqué parce qu'on a 2 phrases à chanter, quelque chose comme ça. Donc pour amener un personnage en 2 phrases ou en 3 phrases, c'est extrêmement compliqué, quoi. Ce sont des rôles qui sont importants pour l'opéra, pour l'œuvre, il faut les faire, mais faut être concentré, faut être là au moment où il faut chanter. Quand vous avez un grand rôle, si au début vous êtes un peu à côté ou si vous vous trompez d'un mot, c'est pas grave, vous avez tout l'opéra pour développer les choses. Quand vous avez un second rôle, faut vraiment
être là. C'est juste ces 5 minutes-là.
C'est d'investissement, énergie, c'est pas facile. C'est pas si évident.
C'est une sorte de leçon d'humilité aussi, peut-être ça, au quotidien. Parce qu'à côté de ça, vous avez des gros égos qui vous disent...
Bien sûr, oui, mais moi j'adore. Il y a des second rôles que j'adore et que je ferai toujours. Moi, Gessler, ça me plairait de le faire toute ma vie. Moi, ça me gêne pas. Puis on fait partie de l'histoire. Puis on est habitué à ça en tant que basse. Je veux dire, de toute façon, on peut pas chanter les premiers rôles avant 40, 45 ans. Réellement. Donc, entre 20 ans et 40 ans, on est tellement content d'avoir des petits rôles à faire pour quand même vivre de notre passion et être avec les autres sur scène.
Et c'est quoi le grand rôle pour vous alors?
Ah, les grands rôles.
Enfin, pour vous vraiment. Enfin, je dis pas les grands rôles de basse, mais pour vous, Nicolas.
De répertoire de basse.
Ouais. Enfin, que vous avez vraiment.
Moi, Mephisto dans Fosse de Gounod, c'est quelque chose que j'adore. Quoi. Le Roi Marc, c'est quelque chose que j'adore. J'en ai quelques-uns comme ça. La Damnation, que j'ai fait plusieurs fois. Il y a. Philippe II dans Don Carlos. Ça, c'est quand même pour la basse un des grands moments que je vais faire à Marseille, là, en 2017.
Et en fait, les grands rôles, vous dites bien, vous êtes en train de les faire maintenant, c'est ça.
Je suis super heureux parce que
vous êtes
là,
comme un chanteur, entre guillemets, normal, ténor, qui, lui, doit tout faire entre 20 et 25 ans.
Et c'est vrai que moi j'ai la chance, je touche du bois, les beaux rôles commencent à venir grâce à des directeurs comme Raymond Dufaux, mais qui m'en a donné, lui, directeur des Corrigis d'Orange, et directeur d'Avignon, qui m'en a donné depuis un certain temps, Maurice Ziberas à Marseille, qui m'offre des magnifiques rôles, à Bordeaux, Isabelle Massé et Thierry Fouquet avec le Roi Marc, moi je suis ravi, je suis comblé.
Et Arkel donc?
Arkel, je l'ai fait une fois à Metz.
D'accord. Vous avez aimé ?
J'ai adoré. Ah, ouais. Mais Arkel, je suis pas pressé. Parce que c'est vraiment quelque chose qui peut se faire sur, ouais. Voilà, sur le long terme. Et
c'est un rôle de vieillard. Donc
c'est un rôle vraiment voilà, et de d'homme un peu brisé. Ouais. Et de, donc c'est quelque chose qui voilà, j'ai le temps de le refaire. Quoi. Mmh. C'est pas quelque chose, je ne suis pas pressé de le refaire.
Mmh. Vous entendez dans un rôle qui n'est pas vraiment d'opéra, c'est dans une sorte de Requiem. Je dis sorte parce qu'il est écrit par un compositeur bien vivant, c'est Thierry Lancino.
L'obscurité, il se l'avenit. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, écoute ma voix. Exaudi voce
Un extrait du Requiem de Thierry Lancino. C'était donc la voix de Nicolas Courjal qu'on entendait là avec Elia Winball à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Une création d'il y a 4 ans. Ici même, dans cette maison de Radio France. Donc, Nicolas Courjal, votre prochain concert, c'est pour ça que vous êtes venu nous voir aussi, pour nous en parler. Quand je dis concert, ce sera récital le 1er août au Corégie d'Orange, pas dans le théâtre lui-même, un récital piano-chant. Évidemment, ça pourrait se faire, mais c'est pas le meilleur lieu pour ça, mais pas très loin, dans la cour Saint-Louis avec Antoine Paloc, alors c'est une manière aussi de faire, enfin c'est pas un clin d'œil, mais montrer votre attachement à la ville d'Orange et aux Corégies.
Oui, oui. Puis j'ai chanté trois fois les Corégies. Ouais. Et puis à la région aussi, parce que je chante beaucoup dans le sud de la France. Donc, et quand Raymond Dufaux m'a proposé ce récital, en plus ça correspondait à une envie de ma part d'essayer de refaire du récital, que je faisais un peu quand j'étais jeune chanteur, quand j'étais en Allemagne et tout. Et que j'avais complètement abandonné du fait de mon emploi du temps, du fait que l'opéra prend beaucoup de temps, et que de faire un récital prend aussi beaucoup de temps, parce qu'il faut préparer une heure et demie de musique, donc c'est pas rien. Et c'est drôle, parce que mon envie personnelle, voilà. Et il m'a proposé ce récital, et bien sûr, tout de suite, j'ai dit
l'envie est bien tombée là.
Ouais.
Donc récital mélodie, musique française, c'est ça ?
Première partie mélodie française, du Parc, Ibert, et puis deuxième partie, petit florilège de... d'air d'opéra de basse.
Oui, parce qu'on est à Orange quand même. Hein.
Voilà.
Donc Orange, c'est opéra,
un grand lieu de l'opéra quand même. Voilà.
Du Parc Ibert, c'est quoi d'Ibert, les Don Quichotte?
Les Don Quichotte.
Ah,
ouais, qui sont magnifiques.
Merveille. Hein.
Ouais.
Parce qu'on va les voir, on dit toujours celle de Ravel, bien sûr.
Oui, oui, non, mais
les mélodies de Jacques Ibert sont superbes aussi.
Elles sont très, très belles.
C'est compliqué quand même un récital de basse. Hein. J'imagine qu'on ne vous le demande pas tous les jours. Parce que déjà, du récital.
Déjà, du récital en soi.
En règle générale, même de mezzo, de baryton. Hein.
C'est compliqué, mais il y a plein de pages de musique. Alors, pour la mélodie, pour le lead, c'est pas compliqué, il y a beaucoup. Pour la mélodie française, c'est vrai que la mélodie française est plus écrite pour des voix moyennes, baritons, donc où on peut transposer certaines choses, comme les Duparc, je les transpose, ou certaines Debussy, on peut pas transposer. Enfin, voilà, donc c'est plus compliqué. Maintenant, il y a tellement d'œuvres musicales, je veux dire, qu'il y a toujours de quoi trouver. Pour des récitals d'air d'opéra, là, il y a vraiment... Ouais. Florilège, il y a quand même des magnifiques pages de basse dans l'opéra.
Et Schubert, le Voyage d'hiver, par exemple, vous y songez à ça?
Ah ben, je l'ai travaillé, c'est une œuvre que j'adore, que je rêve de faire un jour.
D'accord, il n'y a qu'à vous demander en fait.
Il n'y a qu'à me demander.
Il est là, disponible.
Il est disponible.
Nicolas Courjal, qui sera donc le 1er août en récital, mélodie et opéra au Corégie d'Orange, aux côtés d'Antoine Paloc au piano, cours Saint-Louis pour tout cela. Il est 12h36.
France Musique.
Allez, on va partir, si vous le voulez bien, Nicolas Courjal, vers l'autre monde.
Nous étions 20 ou 30 brigands dans une bande, tous habillés blancs à la mode de vous m'entendez, tous habillés blancs à la mode de marchands. La première volerie que je dans ma vie, c'est d'avoir goupillé la bourse de vous m'entendez, c'est d'avoir goupillé la bourse d'un curé. J'entraîne dans sa chambre, mon Dieu, elle était grande, j'y trouve mille écus, je m'y amène. M'entendez, j'y trouve mille écus, je m'y amène dessus. J'entraîne dans une autre, mon Dieu, qu'elle était haute. De robes et de manteaux, j'en charge troué, vous m'entendez. De robes et de manteaux, j'en charge troué, chariot. Je l'ai porté pour vendre à la foire en Hollande. Je l'ai vendu bon marché, il n'avait rien, vous m'entendez. Je l'ai vendu bon marché, il n'avait rien coûté. Ces messieurs de Grenoble, avec leur longue robe et leur bonnet carré, me reviennent tôt. Et leur bonnet carré m'irait bientôt juger. Ils m'ont jugé à pendre, c'est dur à entendre. À pendre étranglé sur la place du commandant. À pendre et trembler sur la place du marché. Monté sur la potence, je regardais la France. Je vis mes compagnons à l'ombre de vous entendez. Je vis mes compagnons à l'ombre de Compagnon de misère, allez dire à ma mère qu'elle ne me reverra plus, je suis un enfant, vous m'entendez. Qu'elle ne me reverra plus.
La complainte de Mandrin, chantée par les membres du poème harmonique, dirigée bien sûr par Vincent Dumestre. C'était l'un des très beaux disques faits par le label Alpha. Bonjour Jean-Paul Combet.
Bonjour Lionel.
Vous étiez le créateur d'Alphade il y a 15 ans, c'est ça? Vous avez quitté le label il y a combien de temps maintenant?
Non, c'est il y a plus que 15 ans, parce que la création, c'était en 99.
Ah oui, d'accord, c'est ça, oui, enfin, on est à peu près dans ces eaux-là. Ah, oui. Et depuis 5 ans, vous n'y êtes plus.
Voilà.
C'est de beaux souvenirs, quand même, Alphade. Vous avez fait très beau disque là-bas.
Oui, je suis très content de réentendre cette chanson de Mandrin.
Ouais. Vous écoutez de temps en temps les disques d'Alphade de l'époque, comme ça, avec l'arme à l'œil et nostalgie?
Non, avec du recul, oui, mais j'en écoute certains, oui. Ouais. Il y en a dont je suis assez fier. Oui.
Lesquels, par exemple?
Oh, les Leonhardt.
Ah oui.
C'est un souvenir inoubliable et je les réécoute, c'est vraiment beaucoup. Et à chaque fois, c'est une découverte, une redécouverte même. Certains disques du poème harmonique aussi. Ah, enfin.
C'est que vous avez été un des derniers enregistrés, Gustave Leonhardt, c'est ça, hein?
Oui.
Enfin, sinon le dernier d'ailleurs, hein?
Pas tout à fait, parce qu'il a fait un disque, il a fait un disque en Russie qui était très mal distribué en France. Ouais. Un très beau disque Forqueray.
D'accord.
Qui était son dernier disque.
Ça veut dire que vous restez attentif au monde du disque, Jean-Paul Combé, malgré tout?
Oui, à ce qu'il en reste, oui.
À ce qu'il... Pourquoi est-ce qu'il en reste?
Ben, je crois que c'est très difficile pour les gens qui y travaillent aujourd'hui. C'est de plus en plus difficile.
Ouais. C'est-à-dire que la situation a changé, on ne paye plus les musiciens, on a du mal à vendre. La distribution, je crois que c'est un truc très compliqué aujourd'hui.
La distribution est devenue très compliquée. La présence, comme on dit, la visibilité des disques. Il faut quand même quelqu'un qui les communique, qui en parle, qui fasse un peu l'intermédiaire entre la production et les mélomanes, les acheteurs. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est en train de disparaître presque de jour en jour.
Quand même, on fait de la production, ça n'empêche pas. Vous en faites aussi. Et donc, voici un label qui s'appelle L'Autre Monde,
hein,
qui est aussi le titre du premier disque qui paraît là-dessus. Alors, ça devait sortir il y a quelques mois déjà, problème de distribution et autres. Ça nous arrive aujourd'hui. Il faut préciser que c'est d'abord un spectacle qu'on a pu voir, signé Benjamin Lazare. C'est quoi ce spectacle? Rappelez-nous.
Mais c'est un spectacle que nous avions créé dans le cadre du festival que j'avais... créé aussi au même moment qu'Alpha, à peu près, un petit peu avant, même si en 97, qu'on avait lancé pour la première fois, ça s'appelle l'Académie Bach.
Arc la Bataille.
Et en 2004, nous avions produit avec Benjamin Lazare ce spectacle qui est un peu expérimental, puisque ça part d'un texte de Cyrano de Bergerac, mais il y a aussi de la musique qui est injectée dedans à des endroits un peu stratégiques. Et donc la création est en 2004 et on a mis 10 ans à en réaliser le film. Ce qui était, on a été un peu déçus que ce soit aussi long. Mais en définitive, comme pendant 10 ans, ce spectacle a tourné énormément, il a aussi beaucoup mûri. Et la jonction entre le texte, la musique, la façon dont Benjamin s'est saisi de ce texte incroyable, au bout de ces 10 années, ça valait la peine d'attendre.
Alors, il y a évidemment Benjamin Lazare, Les Bougies, toujours avec lui. Il y a deux membres de l'ensemble La Rêveuse, qu'on retrouve ici. Et puis, il y a le texte qui est donc de Cyrano de Bergerac, L'Autre Monde, c'est en fait un voyage sur la Lune, hein.
Entre autres. Sur les lunes, enfin on ne sait pas très bien, mais c'est le miroir de la Terre, miroir de ce qui se passe ici, avec un peu le miroir inversé.
Miroir inversé où, malgré tout, on entend des choses qui nous rappellent peut-être que pourrait être le monde ici rêvé, sublimé ou d'une autre façon. Voici Benjamin Lazare qui nous décrit le langage chez les gens de là-haut.
Vous saurez que deux idiomes sont usités en ce pays. L'un sert aux grâces, l'autre est particulier pour le peuple. Celui des grâces n'est autre chose qu'une différence de ton non articulé, à peu près semblable à notre musique quand on n'a pas ajouté les paroles. Et certes, c'est une invention tout ensemble bien utile et bien agréable. Car quand ils sont là de parler, ou quand ils dédaignent de prostituer leur gorge à cet usage, ils prennent tantôt un luth, tantôt un autre instrument, dont ils se servent aussi bien que de la voix à se communiquer leurs pensées. De sorte que quelquefois, ils se rencontreront jusqu'à 15 ou 20 de compagnie qui agiteront un point de théologie ou les difficultés d'un procès par un concert le plus harmonieux dont on puisse chatouiller l'oreille.
Thank you.
Un extrait du spectacle de Benjamin Lazare, dit par lui-même avec les membres de la rêveuse L'autre monde, d'après Cyrano de Bergerac, Savinien, l'écrivain, le vrai, hein, enfin celui qui existait, hein, d'après les états et empires de la Lune, ce grand voyage imaginaire vers l'autre monde. C'est émouvant de ce passage-là où on nous dit que finalement, quand on veut plus prostituer sa gorge au langage, on saisit l'instrument pour faire de la musique.
Voilà. Et alors, ce qu'on ne voit pas, évidemment, c'est les images qui vont avec cette partie, dans lesquelles les deux musiciens, vraiment, sont en train de parler avec leur instrument. On voit qu'ils sont en train de dire quelque chose et que chaque phrase est une question ou une réponse à ce qui a été dit précédemment.
Ça dit beaucoup de choses sur notre monde, ce texte de Cyrano aussi. Hein. On veut bien le dire comme une relecture, évidemment, du monde qu'il vivait lui, hein, son monde à lui, son histoire, mais peut-être d'une autre aussi.
Oui. Ben, son monde à lui, avec une prise de risque qui fait réfléchir aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque... ce texte de Cyrano est un texte clandestin à la base. C'est un texte qui circule sous le manteau, qui n'est publié par ses amis qu'après sa mort et encore publié de façon censurée. D'ailleurs, on ne sait pas très bien s'il est mort naturellement ou s'il a été assassiné, comme Rostand l'a repris ensuite dans sa pièce. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été à la limite de ce qui était possible de dire à cette époque-là. Faut pas oublier que quelques décennies auparavant, pour des propos à peine plus subversifs, on brûle quelqu'un à Toulouse. Donc la parole n'est pas neutre. Dire ce que dit Cyrano, c'est prendre des risques énormes. Ou Théophile de Vieux, à peu près à la même époque, qui est brûlé en effigie en place de grève. Enfin, on ne plaisante pas avec l'esprit libertin au sens de ce que c'est à l'époque, c'est-à-dire affirmer la liberté de penser.
C'est ça, liberté de penser, pas libertinage sexuel, c'était pas la même chose. Hein. L'ensemble de la rêveuse, on va les retrouver ici dans toute autre chose, c'est Marin Marais. Thank you. Cette chaconne de Marin Marais était jouée par les membres de La Rêveuse à l'époque, il y a, bien 10, 12, 13 ans, si je compte, à peu près, voilà, 13 ans, où La Rêveuse donc enregistrée pour le label Alpha et donc pour vous, Jean-Paul Combet. On retrouvera certains de ses membres aux côtés de Benjamin Lazare dans cet autre monde de Cyrano de Bergerac, disponible donc en DVD sur votre label à vous. L'autre monde, disponible où d'ailleurs, puisqu'on parlait de distribution tout à l'heure, Jean-Paul.
Alors, en fait, vu les difficultés de distribution, j'ai créé un site dédié qui s'appelle l'autremonde.eu.
Ouais.
Et sur lequel on peut voir des extraits, etc. On peut passer commande et le commander sur Amazon ou directement sur...
Ah d'accord, vous renvoyez sur Amazon.
Oui, oui, oui.
D'accord. Et le distributeur français, parce qu'il en reste, est-ce qu'il en reste encore d'ailleurs?
Oui, il en reste, mais ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de difficultés. Et puis, je crois vraiment que leur travail est rendu très, très difficile en ce moment. Ouais. Très, très difficile.
Donc, vous préférez passer directement Amazon aux commandes par correspondance?
Si vous voulez, j'ai quand même l'expérience à travers l'expérience Alpha précédemment. Mm-hmm. Je sais un peu comment fonctionne la distribution. Je vois un petit peu aussi quelles sont les perspectives aujourd'hui que peut offrir la distribution numérique. Mm-hmm. Faut vraiment réfléchir à ce que ça offre. Le contact direct avec un public, la possibilité de nouer des liens, peut-être de renforcer une communauté avec ce public. Alors, évidemment, ça bouleverse un petit peu les habitudes, mais peut-être que c'est une des voies d'avenir.
Un festival, celui d'Arc la Bataille, l'Académie Bach, donc, vous avez ouvert il y a 18 ans, si je compte correctement, 18e année, c'est tout de même pas rien. Ce sera du 19 au 22 août, on prend un peu d'avance sur le temps, mais tiens, puisqu'on nous y sommes, causons-en, on n'entend pas que du Bach, rassurez-moi quand même, à ce festival.
Alors cette année, on n'entendra même pas du tout, sauf les ancêtres de la famille Johann Christophe, Johann Michael, qui seront représentés par Vox Luminis.
D'accord. C'est quoi le lieu? C'est toujours l'église d'Arc la Bataille, c'est ça?
Alors, c'est plusieurs lieux. Le point névralgique, c'est l'église d'Arc, cette très très belle église qui a gardé son jubé du 16e au centre, absolument magnifique. Et puis, nous sommes présents aussi dans des lieux assez... dans des beaux lieux de l'agglomération de Dieppe autour, donc des petites églises qui sont dans un rayon de 10 km.
Donc, vous l'avez dit, l'ensemble Vox Luminis, le concert des planètes aussi, Diablo Sin Musica, on voit que le répertoire est large. Hein.
Oui. J'aime bien l'idée d'élargir.
Je comprends, bien sûr.
Il y a des choses que j'aime beaucoup, par exemple, comme la musique du Moyen-Âge ou la musique de la Renaissance, qui sont un petit peu moins bien servies que la musique baroque. Donc, j'essaye le plus possible de les rendre présentes. Et cette année, on aura un cycle de 3 concerts consacrés aux psaumes, au XVIe siècle, justement avec le Concert des Planètes.
D'accord. L'Académie Bach, donc, Arc la Bataille dans sa région, Dieppe, vous l'avez bien dit, du 19 au 22 août, où vous y retrouvera Jean-Paul Combet. Est-ce que vous avez envie de refaire du disque aujourd'hui, d'ailleurs? Vous le faites avec ce DVD, déjà, non?
Oui. Mais dans une logique très artisanale, faire très peu de choses, des choses très choisies, que j'ai envie de faire, en fait, tout simplement, choses que j'aime. Donc là, il y a déjà un disque qui est prêt à sortir avec... c'est la reprise d'un disque de Marie Léonard, un disque qu'elle avait enregistré en 91 et qui a été très mal distribué. Et puis, il y a des choses qui sont en préparation avec Benjamin Allard, avec Rémi Cardinal, etc.
D'accord.
Mais ce sera
ponctuel.
À dose homéopathique.
C'est ça. Nicolas Courjal, tiens, j'y pense, le baroque, tiens, ça vous intéressait, vous?
Oui, ça m'aurait intéressé. Maintenant, on est assez étiquette dans notre...
dans votre milieu.
Ouais, et puis donc du coup, moi, j'ai fait de la troupe, donc je suis devenu un chanteur troupier.
Ouais.
Et c'est vrai que, et puis j'ai été qu'un an au conservatoire, et c'est vrai qu'au CNSM, c'est là où on découvre plein de gens, il y a des classes de musique ancienne, et tout ça, et c'est là qu'on crée des liens. Moi, je n'ai fait qu'un an, j'avais même pas le droit aux classes de musique ancienne en première année.
Ah, c'était pas autorisé à l'époque?
Voilà.
Ah,
oui. Donc du coup, après je suis parti, c'est vrai que j'ai fait de la troupe, j'ai fait du répertoire, et quand je suis revenu en France, j'étais un peu catalogué chanteur.
C'est ça. Voilà. Bon, remarque, il y a pire malédiction.
Mais c'est vrai que ça me plairait d'en faire, d'essayer.
C'est quoi y faire quand même. Mais c'est vrai que ça circule pas mal comme les chanteurs aujourd'hui dans notre répertoire, Jean-Paul Combet, on peut le remarquer. Et puis j'ai trouvé que c'est plutôt une bonne chose, qu'on n'est plus dans une période de spécialisation obstinée comme ça a pu l'être.
Oui, c'est les artistes circulent beaucoup. Moi je trouve ça très bien. Le côté un petit peu... dommageable, si on peut dire, de cette circulation, c'est que comme le temps de travail est souvent très très limité, l'investissement en matière stylistique s'y perd. Donc on voit de plus en plus apparaître une espèce de baroque international, un peu standardisé. Moi, j'aime bien que ce soit un peu extrême quand même.
Ah. Oui, c'est vrai que ça demande une application de... stylistique.
Oui, ouais. C'est ça. Voilà. Ouais,
donc, ça demande un travail. Ça.
Absolument. Et que quel que soit le genre, d'ailleurs, qu'on aille jusqu'au bout de ce qu'on fait. Et pas chercher à trop, homogénéiser les choses.
Ouais. Vous avez dit Bach. Eh bien, voici le café de Zimmermann. Ça nous rappellera de bons souvenirs aussi.
Oui.
Les gavottes de la première suite de Jean-Sébastien Bach étaient jouées par les membres du café de Zimmermann. Cette émission a été préparée par Aurélie Moreau, réalisée par Antoine Courtin, avec aujourd'hui Mathieu Tourin et Charles Barjou.